Il est midi sur Radio Orient. Bonjour à tous. Le journal Loïc Barrière. Le 42e sommet des États du Golfe s'ouvre aujourd'hui à Riyad. En Tunisie, Kais Saied se donne une année pour modifier le système politique. Le Parlement restera suspendu jusqu'à de nouvelles élections législatives organisées à la fin de l'année prochaine. Après la fermeture de ses frontières pour faire face au Covid, le Maroc autorise exceptionnellement les Marocains bloqués à l'étranger à retourner dans le royaume. Un collectif citoyen appelle les Français issus de l'immigration à s'inscrire sur les listes électorales pour faire barrage à l'extrême droite. À l'origine de cette initiative, Mohamed Najib, nous l'écouterons. Enfin, à Nantes, une manifestation des personnes de l'éducation nationale pour demander plus de moyens pour soutenir la scolarisation des enfants en situation de handicap. Nous écouterons Gwenaëlle Le Guével, secrétaire régionale du SGEN-CFDT. Riyad accueille donc aujourd'hui le 42e sommet du Conseil de coopération du Golfe, un sommet qui se tient après la tournée du prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman dans les États de la région. Parmi les sujets à l'ordre du jour, le développement des relations économiques entre les pays qui composent le CCG, mais aussi les sujets politiques comme la guerre au Yémen, la situation au Liban ou les relations avec l'Iran. En Tunisie, le président Kais Saied a prolongé la suspension du Parlement jusqu'à la tenue de nouvelles élections législatives le 17 décembre 2022. Dans un discours à la nation, le chef de l'État a également annoncé une série de consultations à partir du 1er janvier, des consultations qui porteront notamment sur des amendements constitutionnels et électoraux qui seront ensuite soumis à un référendum le 25 juillet. Le gouvernement marocain autorise exceptionnellement les Marocains bloqués à l'étranger à retourner dans le royaume, une mesure qui concerne les personnes bloquées en raison de la fermeture des frontières. Des vols de passagers sont prévus à partir du Portugal, de la Turquie et des Émirats Arabes Unis. Avant l'embarquement, chaque passager devra présenter un test PCR négatif de moins de 48 heures. La France, c'est aussi nous, tous inscrits face à l'extrême droite. C'est le mot d'ordre d'un collectif citoyen. Objectif, inciter les Français issus de l'immigration à s'inscrire sur les listes électorales. La France, c'est aussi vous. Vous avez le droit et le devoir de faire entendre votre voix en prenant part à la vie politique de votre pays, affirme Mohamed Najib, à l'origine de ce collectif. Selon lui, il faut également se mobiliser pour faire face à l'extrême droite. Mohamed Najib.
La raison, c'est simple. C'est simplement, lorsque je regarde l'actualité, notamment, il faut le dire, les choses telles qu'elles sont, avec les attaques actuelles de Zemmour contre l'immigration, à titre personnel, en tant que père de famille, en tant qu'enfant, en tant que personne issue de l'immigration, je me suis senti très insulté par ça. Lorsque je regarde les réactions politiques, il n'y a pas de véritable réaction. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ce qui m'a choqué plus, c'est pas tant que l'extrême droite soit forte et affirme son point de vue. C'est surtout que je regarde de l'autre côté, tous ces immigrés dont je fais partie ne se mobilisent pas. Ils ne participent pas, ils ne réagissent pas. Ils sont là comme des observateurs et ça, c'est ça qui m'a donné envie d'aller réagir et lui dire non. Non, les gars, vous êtes tous français aussi. Vous êtes français, vous êtes là chez vous, il faut faire entendre votre voix. C'est ça qui me fait réagir réellement. Et c'est ça que je voudrais que les gens entendent.
Faire entendre sa voix, c'est notamment s'inscrire sur les listes électorales.
Exactement. Mais en fait, je pense que les gens, avant de dire inscrire sur les listes électorales, il y a une question, parce que je parlais avec des amis, j'ai un ami sénégalais et un voisin. Son grand-père est mort durant la guerre de 1914. Et quand je lui pose la question, est-ce qu'il est français, il me dit non, je me sens plutôt sénégalais. Voyez-vous. Et pourtant, il est en France, son père est mort pour la France, et pourtant, il ne se sent toujours pas français. Et ça, ça m'a choqué. Ça m'a choqué parce qu'en fait, les gens, avant de leur dire inscrivez-vous sur la liste électorale, il faut déjà se poser la question de l'identité. Il faut dire à tous ces gens-là, tous ces amis et tous ces amis de l'immigration, c'est qu'en fait, ils sont français. Pourquoi est-ce qu'ils sont français? Parce qu'ils ont choisi de vivre ici. Ils ont choisi de vivre ici, de passer leur vie ici, de participer à cette vie collective, et donc ils sont français. Parce que pour eux, la France, c'est quoi? La France, c'est le stéréotype que donne l'extrême droite. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire s'appeler Eric, manger du pain, avoir une bouteille de vin sur la table. Non, la France, c'est pas ça, les amis. La France, c'est pas ça. Ça, c'est le stéréotype de l'extrême droite. La France, c'est aussi manger du couscous, boire du thé et s'appeler Mohamed, comme je le suis. Et je suis français. Et c'est d'abord le premier ministre, c'est de dire aux gens, vous êtes français, vous êtes légitime à vous sentir français, car vous l'êtes, vous avez choisi de passer votre vie ici en France, et donc vous êtes français. Il n'y a pas besoin d'attendre d'avoir passé 15 ans, 40 ans de sa vie en France pour se rendre compte, a posteriori, qu'en fait, ah, je suis français. Non, vous l'êtes dorénavant, dès que vous avez choisi de vivre en France. Ça, c'est la première chose. Et parfois, j'entends des gens, quand je leur dis je suis français, il y a un petit sourire, il y a un petit ricanement qui est derrière, qui dit, non, mais c'est pas vrai, t'es pas vraiment français. Bien sûr que si, je suis français. Et ça, c'est le premier message, avant de dire, il va falloir voter. Mais parce que pour voter, il faut d'abord se sentir membre de ce pays-là. Et c'est là, à mon avis, le premier des combats. Il faut que les gens se sentent français illégitimes de défendre leurs droits.
Et donc ce collectif se mobilise notamment le week-end sur les marchés?
Exactement, voilà, c'est ça. On passe sur les marchés parce que c'est là où le marché, c'est là où il y a la vie, hein. Où les gens sont là, où il y a la diversité. Et moi-même, comme je l'ai dit, j'ai travaillé dans les marchés quand j'étais jeune, donc je connais cette ambiance-là. Et j'ai envie de leur dire à ces gens-là qui, quand je leur pose la question, est-ce que vous êtes inscrit sur les listes électorales? Pour ceux qui le peuvent, ils me disent non, souvent. Et pour ceux qui ne le peuvent pas, je leur pose la question, est-ce que vos enfants sont inscrits sur les listes électorales? Et là encore, ils me disent non, ils savent pas trop. Bref, ils sont pas impliqués parce qu'encore une fois, il y a ce problème d'identité qu'on doit régler entre nous. Et alors, effectivement, les actions de terrain, c'est sur les marchés principalement et sur les lieux vraiment populaires.
Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'inscrire sur les listes électorales pour pouvoir participer à cette élection présidentielle?
Alors, pour s'inscrire sur les électorales, c'est très simple. Il suffit simplement d'aller en mairie avec une carte d'identité, première chose, et un justificatif d'hébergement, justificatif de domicile. C'est deux choses, hein. Carte d'identité et justificatif de domicile. Alors, ce que je dis aux gens, c'est que, certes, vous, peut-être, il se peut qu'il y ait des gens qui n'aient pas encore la carte d'identité et donc qui ne peuvent pas voter. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit d'exprimer leur opinion. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit de venir nous aider à mobiliser des gens. Parce qu'une personne qui ne vote pas, mais si elle est capable d'aller dire à ses enfants, d'aller dire à ses amis, d'aller dire à ses voisins d'aller voter, c'est comme s'il a voté plusieurs fois. Donc, ne croyez pas que si vous n'avez pas le droit de voter, que c'est fini. Non, c'est pas ça du tout. Venez sur Facebook. On a un groupe Facebook qui s'appelle La France, c'est aussi nous, parce que c'est ça la première chose qu'on veut dire. Vous aussi, vous êtes français, la France, c'est aussi nous. Venez sur Facebook, on programme des actions à la fois sur les terrains, sur les marchés, et d'autres actions selon les personnes qui sont là. Et donc, on va s'organiser collectivement. Derrière, il n'y a pas d'organe politique. C'est vraiment une démarche citoyenne pour défendre notre point de vue. Donc venez, quelles que soient par ailleurs vos affinités politiques, ce n'est pas le sujet. Le sujet, simplement, ce n'est pas de voter pour tel ou pour un tel, c'est simplement de s'opposer, de faire barrage à cette extrême droite qui veut simplement nous réduire au silence, hein. Donc venez effectivement sur Facebook, on vous attend. Là, on vient de lancer l'initiative, ça commence. Donc à vous de venir et de développer cette initiative parce que personne ne va nous défendre. C'est à nous seuls de le faire. Alors venez avec nous et travaillons ensemble pour faire face.
Mohamed Najib du collectif La France, c'est aussi nous. Il est possible de s'inscrire sur les listes électorales jusqu'au 22 mars. Gérald Darmanin dit avoir enclenché la procédure de fermeture administrative de la grande mosquée de Beauvais dans l'Oise. Le ministre de l'Intérieur dénonce la radicalité des prêches qui y sont donnés. L'inclusion des élèves en situation de handicap, une large intersyndicale de l'éducation Loire-Atlantique appelle à la grève et à manifester ce mardi. Elle proteste contre le manque de moyens et de personnel dans les écoles inclusives accueillant des enfants en situation de handicap. On écoute Gwenaëlle Leguével, professeure des écoles à Nantes et secrétaire régionale du SGEN CFDT.
À court terme, c'est à la fois des solutions quantitatives, mais aussi qualitatives. C'est-à-dire, sur le quantitatif, il y a besoin de moyens, hein, tout simplement. L'éducation, la santé, là, ça passe par des moyens. Mais nous, on dit aussi que ce qui est très important, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces moyens. Et donc, il y a un vrai sujet qualitatif, surtout avec la culture française de séparation en silos, en tuyaux d'orgue du fonctionnement de l'école aujourd'hui. Sur l'école inclusive, il y a un vrai sujet sur la séparation de l'éducation nationale et du médico-social.
Ça, c'est un chantier qui a été partiellement ouvert depuis la loi de 2005, la loi Monchamp.
Ouais, c'est ça. Alors la loi de 2005, elle a commencé à faire passer cette idée qu'il fallait que l'école devienne inclusive. Mais on a un débat depuis ce temps-là entre est-ce que c'est l'élève qui doit s'adapter à l'école ou est-ce que c'est l'école qui doit s'adapter à l'élève, hein. Donc en termes un peu plus spécialistes, on va dire, c'est le débat entre l'accessibilité et la compensation. Est-ce qu'on compense en se basant sur l'élève, on essaie de compenser un maximum pour qu'il puisse s'adapter à l'école, ou est-ce qu'on rend l'école plus accessible pour qu'elle puisse être ouverte à tout le monde? Aujourd'hui, nous, on pense qu'on est un peu trop sur une logique de compensation et pas assez sur l'accessibilité. Mais ça suppose de repenser complètement le fonctionnement de l'école aujourd'hui. Et ça suppose aussi de faire des rapprochements, de travailler à la coopération entre deux mondes qui s'ignorent encore un peu, qui sont celui du médico-social, donc des IME, des instituts, des ITEP, et celui de l'école ordinaire, comme on dit, ce qu'on est encore dans une culture française d'externalisation quand même.
Et vous déplorez hein, aujourd'hui cette séparation entre le ministère de l'Éducation nationale et le secrétariat d'État aux personnes handicapées.
Ben c'est ça, ouais. C'est-à-dire que tant qu'il y a cette séparation-là, c'est très compliqué de mettre en place cette coopération, qu'elle soit effective et fine sur le terrain, parce que ça c'est pas d'un claquement de doigts qu'on fait en sorte que un plateau technique d'IME s'installe dans une école pour travailler à l'inclusion des élèves. Ça c'est concret, hein, c'est le format vers lequel nous on aimerait aller, c'est-à-dire qu'il y ait plus d'adultes dans les écoles et des adultes formés pour accompagner ces élèves, et puis qu'ils puissent permettre une grande souplesse à l'intérieur de l'école. Voilà. Et donc du coup, qu'on soit sur une école beaucoup moins normative et beaucoup plus souple, qui puisse s'adapter au parcours des élèves, quoi.
Voilà. Vous demandez donc le recrutement, la formation aussi d'accompagnants des élèves en situation de handicap et l'ouverture de postes supplémentaires d'enseignants et de psychologues scolaires.
Oui, alors, tout à fait. Alors, après, sur les accompagnants d'élèves en situation de handicap, les accompagnantes d'ailleurs, on pourrait dire, elles sont aujourd'hui scandaleusement sous-payées. Là, il y a tout un enjeu. Il faut surtout en faire un vrai métier, c'est-à-dire que ce soit des gens à temps plein, ce qui suppose de redéfinir peut-être leur périmètre d'action, qu'ils soient plus des agents d'accessibilité, il y a des projets là qui sont intéressants, que ce soit des gens qui aient d'autres tâches supplémentaires à l'intérieur de l'éducation nationale, qu'on puisse les payer correctement. Là aujourd'hui, il y a des gens qui sont à 800 euros par mois, c'est un scandale, ça c'est clair. Donc du coup, et qui ce sont eux qui sont en charge de rendre l'école inclusive, c'est pas du tout normal. Là, il y a une vraie question de moyens, de mettre des moyens. Et puis après, bah, il y a la question qui est plus fine et plus qualitative de l'intermétier, c'est-à-dire comment on fait travailler tout ce monde-là ensemble et comment on fait rencontrer tous ces métiers. Voilà, ça reste encore un défi, ça. Le pédagogique, la recherche aussi, il faut pas oublier la recherche, le médical, le judiciaire même parfois, enfin vous voyez, tous ces univers-là qui en fait sont encore en tuyau d'orgue et s'ignorent.
Cette école inclusive que vous demandez aujourd'hui, est-ce qu'il y a des pays dans lesquels une école véritablement inclusive existe, des pays sur lesquels la France pourrait prendre exemple?
Oui, il faudrait aller voir du côté de l'Italie, Espagne, Belgique, Québec, hein, qui sont souvent cités, où il y a des choix qui ont été faits. Bon, alors l'Italie, ça a été très radical dans les années 70 avec une fermeture des institutions. Ça a été un choix très radical. Là, bon, d'une certaine manière, là, il y a un peu une... Ça se fait un peu comme ça, là, en ce moment, à marche forcée. Alors, c'est délicat parce que faut trouver justement un bon équilibre entre le volontarisme et... les équipes sur le terrain qui doivent faire avec leur réalité locale, quoi. Faut pas y aller à la hache non plus, c'est un équilibre à trouver, quoi. Mais bon, en tout cas, on en gagnerait effectivement à s'inspirer des expériences à l'étranger, puisque là, on peut pas dire qu'on est sur des pays qui sont très différents des nôtres, hein. Y a pas de raison. Italie, Espagne, Québec, c'est pas... on va chercher des cultures qui sont relativement proches.
Et plus globalement, vous estimez que la question du handicap n'est pas suffisamment abordée aujourd'hui durant cette campagne ou cette pré-campagne présidentielle, sachant que cela touche plus de 12 millions de personnes aujourd'hui en France.
On est loin, loin, loin de que ce soit un sujet. Le début de cette campagne est un peu catastrophique sur ce plan-là. On est que sur les questions de sécurité, d'immigration. Bon, ça, chacun de balayer devant sa porte, se demander comment il se laisse embarquer dans ces sujets-là, hein. Mais oui, effectivement, pour nous, il reste à remettre en avant des sujets comme le handicap, l'éducation, voilà, c'est clair. Ouais.
Gwenaël Le Guével, professeur des écoles à Nantes et secrétaire régional du SGEN-CFDT, il répondait à François-Xavier de Calonne. Le Conseil scientifique détaille les recommandations à appliquer durant les fêtes de fin d'année pour limiter les contaminations au Covid-19. Le Conseil invite à limiter le nombre d'invités lors des repas. Il faudra aussi aérer les pièces et penser à pratiquer des autotests avant de rencontrer vos proches. Enfin, l'invité de Pluriel à 19h et 23h sera Aurélie Trouvé, ancienne porte-parole d'Attaque, présidente du Parlement de l'Union Populaire, qui soutient la candidature de Jean-Luc Mélenchon. À 17h30, vous retrouverez François-Xavier de Calonne pour le journal en langue française. Excellente journée à l'écoute de Radio Orient.